7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle cuisine. Vous le savez, régulièrement dans cette émission, nous réinterrogeons le patrimoine culinaire du continent africain, mal connu à l'extérieur, pas toujours estimé à sa juste valeur sur le continent lui-même, au profit de l'industrie agroalimentaire mondialisée. Alors aujourd'hui, comment réintégrer les épices et les aliments oubliés dans les recettes? Poivre, gingembre, piment, sumbala, égoussi, ourou ou encore taro. Pourquoi et comment des poudres, des graines, des tubercules, des feuilles au goût surprenant ont le pouvoir de changer la façon de cuisiner? Les voisins, on attend bien sûr vos recettes, vos suggestions, vos témoignages sur vos assiettes, surtout que l'heure du repas approche bientôt. Pour consommer local, le numéro de téléphone, c'est toujours le même, 33 1 84 22 71 71. On est aussi sur WhatsApp, bien sûr, et vous pouvez aussi poster des messages audio. Nous allons discuter de tout cela avec Chef Anto. Bonjour Anto.
Bonjour Emmanuel.
Tombée dans la marmite de sa grand-mère au Gabon, chef à domicile en France, cofondatrice du festival We Eat Africa. Nous mangeons africain.
Exactement.
Ou nous mangeons l'Afrique d'ailleurs, tout cru. Et c'est le 7 juillet prochain, c'est-à-dire samedi.
Exactement,
grosse
à
stress.
Paris. Grosse, on est sous pression, mais on est
sous
très content parce qu'on est victime de notre succès.
C'est ça, énormément de demandes pour assister à ce festival We Eat Africa à Paris, samedi prochain, les papilles en folie. Faire découvrir au tout Paris culinaire les trésors de la gastronomie africaine, parce que ça ne sera surtout pas un rendez-vous de la diaspora. Ça sera un vrai rendez-vous français pour s'intéresser à la gastronomie, aux gastronomies.
Exactement.
Africaine.
Nous, notre but, en tout cas, c'est le goût du partage. C'est vraiment partager nos produits à ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent, ceux qui veulent les redécouvrir de façon différente.
Et permettre aux entrepreneurs qui sont aussi ici autour de cette table de prendre leur envol, de mieux s'exprimer,
oui,
et
de mieux se faire connaître.
Oui. Olivia de Souza également avec nous. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Olivia, vous dirigez l'atelier d'essence à Lomé au Togo, de bons petits plats pour des fêtes, pour des événements, des cours de cuisine aussi. J'ai lu que vous avez commencé en France en cuisinant pour votre banque.
Oui,
ça c'est un bon filon.
Ben oui, en fait, elle a tout de suite cru en moi parce que j'étais venue la voir. J'avais des dépôts réguliers de petites sommes et tout. Elle me disait, mais comment ça se fait que vous avez votre salaire, mais tous les semaines vous déposez des sommes et tout. Je dis, mais oui, parce que je nourris tout le plateau de au travail. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Et puis voilà, je lui ai raconté tout ça.
Et vous avez apporté
et
vos plats.
Et puis j'ai apporté mes plats.
Et là, tout de suite, ça ouvre des portes.
Ah oui.
Et des crédits.
Vraiment.
Aïssata Diakité avec nous, franco-malienne. Bonjour Aïssata.
Oui, bonjour Emmanuel.
Aïssata, on est particulièrement heureux de vous recevoir dans cette émission parce qu'on vous a reçu il y a 2 ans à Bamako pour une émission avec Didier Akouété.
Exactement.
Le coach, vous avez été coachée par Didier Akouété, vous étiez une toute jeune entrepreneuse,
oui,
malienne à Bamako. Vous êtes la créatrice des jus de fruits Zabane. Que signifie Zabane?
En fait, Zabane, c'est le nom d'une espèce de liane sauvage qui pousse au Mali, très bon, acidulé, sucré. Et dans la gamme Zabane, moi, je valorise beaucoup les produits sauvages qui ne sont pas connus et qui sont souvent utilisés dans les villages ou dans la médecine traditionnelle africaine. Et on a intégrés dans nos recettes de jus qui sont très bons et qui apportent un plus à la santé du consommateur.
Des jus donc à base de lianes, de plantes, de fleurs, de tiges, de racines. Vous en avez apporté plusieurs petites bouteilles.
Exactement.
Moi j'en ai goûté il y a 2 ans, ils sont absolument délicieux.
Merci.
On va goûter pendant l'antenne. Vous avez grandi à Mopti, études en France, et vous avez d'ailleurs commencé en testant vos jus sur les marchés à Londres.
Oui, j'ai testé sur le marché à Londres, parce que j'ai fait une année là-bas après les études. Et d'abord en France, dans ma résidence étudiante, je en faisais tout le temps pour faire goûter à mes copines, des amis, les voisins. Et c'est comme ça que j'ai validé les recettes. Et après, aujourd'hui, on les produit dans l'usine à Bamako et qu'on propose sur le marché local et international.
Voilà,
aussi.
Local, mais bien sûr, vous avez envie de grandir, d'aller au-delà du marché malien. C'est aussi, oui, pour ça que vous serez présente le 7 juillet à Paris au festival We Eat Africa. Nathalie Brigongoum, bonjour à vous.
Bonjour Emmanuel.
Chef à domicile, blogueuse, consultante culinaire. Vous roulez, alors vous, plutôt pour la cuisine camerounaise, hein, il faut le dire.
Alors, je roule pour les produits du Cameroun. et pour la cuisine de toute l'Afrique.
Et quant à vous, les voisins et les voisines, bien sûr, vous nous appelez pour partager avec nous vos meilleurs plats, pour retrouver les goûts de la cuisine africaine. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins et la planète sépare.
Et un voisin nous a posté ce message de Dakar. Souleymane, c'est à vous.
Bon, moi, je pense que la cuisine africaine, bon, je pense que commence à perdre son importance. D'abord, comme on nous dit chez nous, de plus en plus, nous copions. Mais nous copions très mal. C'est-à-dire copier sans trier, sans savoir même quelles sont les valeurs, l'importance des cuissons que nous copions à l'étranger, par exemple, dans les pays européens. En plus, l'essor, c'est-à-dire que le développement aujourd'hui des restos fast-food qui sont à configuration occidentale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là-bas, on y vend des aliments et des produits et des plats, la gastronomie occidentale, de plus en plus, ceci aussi contribue à la destruction de nos habitudes alimentaires. Et je pense qu'enfin, admettons que malheureusement, de plus en plus, nos femmes sont incapables de cuisiner normalement, c'est-à-dire que cuisson, il y a une grande différence, il faut bien cuisiner, de ne pas perdre les vitamines et tout faire pour avoir une ration alimentaire vraiment convenable à l'organisme au quotidien. Merci.
Merci Souleymane pour ce gentil message. Réaction.
Quand les femmes africaines deviennent incapables de cuisiner.
Eh bien, c'est l'occasion pour les hommes de se mettre à la marmite.
Bien sûr. Tout à fait. En tout cas, par rapport à ce qui, je comprends ce qu'il vient de dire, notamment quand il dit on copie beaucoup. Quelque part, c'est comme si on perdait un peu, nos cuisines perdaient leur âme parce que on se dit comme les gastronomies occidentales sont les plus connues au monde et les plus valorisées, donc nos cuisines, on doit les copier comme ça pour que ça soit aussi au même titre qu'elle, en tout cas valorisée. Donc, je comprends ce qu'il veut dire, mais je pense que ça dépend de d'où on se positionne. Par exemple, moi, dans les produits, en tout cas dans ma façon de cuisiner, ce que j'ai décidé de faire, c'est garder l'essence même de notre cuisine, donc les produits traditionnels, mais de travailler plutôt sur le visuel, parce que c'est ce qui nous manquait, et de faire en sorte que visuellement, en termes de langage, ça puisse correspondre à la clientèle que je côtoie. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'on ne doit pas tout copier, parce que sinon, ça fait perdre notre essence.
Un message de Hosanna à Beboto, au sud du Tchad. On adore ici la bouillie de manioc quand elle est chaude. Moi, j'adore la soupe de taro avec un peu de pâte d'arachide. Qui peut expliquer ce que c'est que le taro?
Alors, le taro, c'est une tubercule. Hein. C'est une tubercule qui n'est pas très loin du manioc et qui est un peu plus amidonnée. Voilà. Et donc, on en fait effectivement des bouillies. Moi, j'en fais des chips.
Ah, des chips de taro.
Voilà, des chips de taro. Ouais. Parce que la bouillie, pour moi, est un peu épaisse, mais bon, c'est très
c'est galère hein, à préparer.
Voilà,
quand même,
c'est très nourrissant. Voilà.
Parce que c'est un peu gluant.
Donc on le mélange aussi.
Il paraît qu'il faut mettre des gants au moment de l'épluchage parce qu'il y a des substances toxiques. Non, tout ça, c'est...
C'est la causette. Mais ça, c'est comme l'igname. Il y a déjà, les gens peuvent faire des allergies donc à la peau de l'igname, du manioc, du taro.
On pèle sous l'eau courante, c'est ça hein? On épluche sous un robinet d'eau?
Oui, pas forcément. Parce qu'il y a beaucoup de terre, surtout sur le taro.
Voilà,
en plus, il a une peau duveteuse. Il y a des petits duvets.
Un auditeur nous demande s'il y a d'autres noms pour désigner le taro en Afrique. Parce que certains ne s'y retrouvent pas, là.
Il y a le taro, en général, c'est la variété blanche. On a le macabo, qui ressemble au taro, mais qui est rouge, dont la chair est rouge. Donc, après moi, c'est plutôt ces deux variétés que je connais.
Nathalie.
Pour compléter, en fait, je connais aussi le macabo blanc. Mm-hmm. Et le macabo est souvent plus grand que le taro.
Le taro, voilà.
Et puis, comme a dit Chef Anto, il y a le duvet, les cheveux. les cheveux, ça ressemble un peu au topinambou, mais avec des cheveux.
Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Ça vous fait. Vous savez parler aux Européens. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille une voisine de Kinshasa. Bonjour Rafi.
Bonjour Emmanuel.
Alors, où en êtes-vous avec les feuilles, les épices, tout ce qui est oublié dans vos gastronomies?
Je cuisine avec les ingrédients naturels, gingembre, tomates de fruits, oignons, feuilles de laurier, parce que j'aime plus garder cette connotation culturelle africaine. Parce que moi, j'aime plus cuisiner la banane plantain, le poisson frais, le poisson fumé et autres. C'est les plats de chez moi.
Mmh. Est-ce qu'il y avait... Oui, Afi, je vous écoute.
Oui, mais une remarque faite, aujourd'hui, les plats occidentaux remplacent de plus en plus nos plats africains.
À quoi, vous...
pour laquelle...
à quoi vous pensez, Afi?
Moi, je pense qu'il serait mieux de garder notre culture. C'est vrai, on peut copier ce que font les autres, mais il faut pas perdre cette originalité.
Quand vous dites les plats occidentaux important. Remplacent nos plats, à quoi vous pensez comme plat?
Je pense aux salades, tout ce qui accompagne, voilà.
Ah oui, la salade, c'est pas un truc de la RDC.
Ah non, c'est plus copié. Hein.
Eh bien oui, parce qu'en fait, on a historiquement davantage pris l'habitude de cuire les aliments, d'abord pour des raisons de sécurité alimentaire aussi. Hein.
Oui, c'est très important parce qu'il ne faut pas seulement manger pour se rassasier, mais aussi manger des aliments curatifs, c'est comme le courge. Uh-huh. Ça a aussi une connotation pour avoir une très bonne santé, une connotation curative. Et moi, je me rappelle, une fois, on a dû recevoir deux Françaises chez nous à la maison, ici à Kinshasa. Et curieusement, elles étaient plus du côté africaine. Cela veut dire qu'ils aimaient plus le plat africain que nous préparions à la maison.
Eh bien voilà, vous avez tout dit, Afi. Donc, on a compris. À bas les salades à Kinshasa. On retrouve... Non, vous n'êtes pas d'accord, j'ai l'impression, Olivia de Souza.
Non, moi, je ne suis pas... En fait, je me permets de rebondir, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que moi, je suis d'origine malienne. Au Mali, on a beaucoup d'ethnies. Et du Nord aussi, on a beaucoup de recettes et divers et variés. Et tout est généralement fait à base des produits locaux. Si je prends le Nord, les sorailles vont manger les fakouilles. Et le fakouille, c'est fait avec une feuille qui pousse dans le Nord. Et du côté Sud, on va trouver le couscous de mil, fait à base de mil, le petit mil qu'on trouve en Afrique, qui est très bon, qui a beaucoup de vertus, mieux que les riz. Et idem, les dékés qu'on boit généralement durant les fêtes. Et chez nous, il y a encore ces côtés naturels.
Au village.
On
est bien d'accord.
En grande ville, ça continue encore. C'est vrai, la jeune génération occidentalisée qui est sur place va faire des pâtes parce que ça prend moins de temps, ou faire une salade parce que c'est léger. Mais je trouve que la salade, c'est ouvert à tout le monde parce que les feuilles, on en mange beaucoup.
Rien ne nous empêche de faire une salade avec
salade,
des produits.
Pas alors, français.
On a annoncé qu'on allait parler des épices tout de même. Aujourd'hui, chez Fanto, les épices, les feuilles, les graines. À quoi servent aujourd'hui, à quoi peuvent servir les épices dans la cuisine africaine? Beaucoup se posent la question finalement, alors qu'il y a tellement de préparations toutes prêtes qui servent à donner du goût à toutes les cuissons.
Oui, mais nos cuisines sont des cuisines de caractère, et ce qui donne ce caractère-là, ce sont nos épices. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai ma grand-mère qui a eu 100 ans en avril, et quand elle cuisinait...
Bravo, petit message à elle, si elle nous écoute au Gabon.
Quand elle cuisinait, c'était avec ces épices-là. Enfin, il y en a plein qui n'ont pas de nom en français, mais... tous les additifs qu'on nous vend, qui sont industriels, ne remplaceront jamais nos épices. Surtout que nos épices n'assaisonnent pas seulement, ils ont aussi des pouvoirs curatifs, comme elle a dit.
Olivia de Souza, vous aussi, vous travaillez beaucoup sur la redécouverte des épices au Togo, dans les cours de cuisine.
Tout à fait. En fait, moi, je fais partie sur le fait que j'aime beaucoup faire mariner. Moi, j'ai fait une bonne partie de ma carrière en France, et donc c'était fait le poivre. Et justement, j'avais toujours des problèmes avec mes collègues, et parce que c'était c'est trop de marinade, vas-y, voilà. Alors moi, je fais toujours mariner. Et donc la veille,
les
pour
viandes,
le lendemain,
les viandes, les poissons,
je marine à 7h ou la veille, je mets au frais, voilà. Et donc du coup, j'ai une base, qui est une base, je pense, d'antan, que j'ai toujours vu ma mère faire,
qu'est-ce que vous mettez?
Je mets de l'ail, je mets de l'oignon, je mets du gingembre, je mets du poivre. Maintenant, au Togo, particulièrement, on met de l'anis. Mais l'anis ne va pas avec tout. Donc du coup, je ne mets plus d'anis, et en fonction du plat que je vais faire, je vais rajouter un épice qui...
Jusque-là, pas des produits incroyablement mystérieux.
Tout à fait. Et depuis quelques mois, j'ai découvert le curcuma frais. Parce que je l'utilisais en poudre, mais j'ai découvert sur nos marchés qu'il y avait du curcuma frais, donc je le mets aussi dans mon mélange.
À quoi ça ressemble en frais?
Moi, j'ai toujours vu en gingembre.
D'accord. Mais fait tout petit. C'est une racine que vous
râpez? C'est une racine que je râpe ou que je mixe. C'est comme du gingembre, mais c'est vraiment beaucoup plus petit que le gingembre. Et donc, effectivement, beaucoup de mes marinades depuis quelques temps.
Donc vous mélangez tout ça.
Un petit clin d'œil à mes clients qui disent « Mais pourquoi tes viandes sont toujours jaunes ?» Mais parce que justement, je mets du curcuma depuis peu et toutes mes marinades.
Donc vous frottez bien toutes vos viandes avec
mais
ça
vraiment avec,
et vous laissez reposer au frais.
Je laisse reposer. Et je n'utilise plus beaucoup de l'huile d'olive et j'utilise beaucoup d'huile de coco et de l'huile d'arachide. Oui. Et maintenant, on fait aussi de l'huile de soja au Togo. Donc voilà, j'essaie d'utiliser ces huiles-là et je fais mariner. Mais je vous avoue que sel, poivre après, on a du goût. Et il faudrait, moi, mon message, c'est que je voudrais aussi que les gens arrêtent de confondre épices et piments.
Et piment, ouais.
Ça, c'est vraiment mon message pour aujourd'hui. Les épices, c'est pas fort, ça sent pas, c'est pas, voilà, c'est pas mauvais. Bon, après, c'est comme tout, un l'ail, ça donne du goût, mais c'est pas forcément, ça pique pas. Ça pique pas. Oui, le poivre pique. Le piment pique, mais le poivre, on en met...
Nathalie Brigoun-Goum, bon, vous, évidemment, avec les poivres au Cameroun, vous êtes servie. Je ne sais pas combien il y a de sortes de poivres.
Alors, je vais d'abord définir succinctement épice. C'est vraiment ma déformation professionnelle, j'ai défini tout. Donc, c'est souvent une substance aromatique végétale. Voilà, qui sert à parfumer des plats. Mais comme l'a dit Chef Manteau, je ne sais pas si Olivier l'a dit aussi... Peut-être toi aussi. Il y a une valeur curative aussi pour certaines. Voilà. Pour, et puis le njansan qui est l'acpi en Côte d'Ivoire et
tout
dans d'autres pays.
Le njansan, c'est.
Le njansan, c'est une amande d'un arbre. J'avoue que son nom un peu latin, un peu compliqué pour moi. Rhizodendron, quelque chose comme ça, très très long. Voilà. On l'appelle aussi passe-partout parce que ça sert à assaisonner beaucoup de plats, aussi bien du poisson que du poulet, de la viande.
Donc, pareil, voilà. Pilé.
Alors, ça peut être pilé, ça peut être écrasé, mais d'abord, on aime torréfier, voilà, ouais. Voilà, donc sans huile, comme ça, ça
donc exhale grillé à sec, hein.
Tout à fait, ça exhale tous ses parfums. L'écorce de njansan permet aussi de soigner certaines maladies parfois honteuses.
Vous dites qu'il faut absolument retrouver les épices pour s'en servir comme base de cuisine, mais selon les pays, quelles sont les épices incontournables à avoir sur son étagère? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là, les unes et les autres, sachant que vous venez toutes de pays différents. Le djansan, d'accord, pour Nathalie.
Le pébé. Oui, les quatre côtés.
C'est-à-dire.
Alors, le pébé.
Là, là. En français facile.
En français facile, c'est le pébé. Dans certains dictionnaires, on l'appelle la fausse noix de muscade. Moi, je refuse cette assertion parce que fausse noix, ça veut dire qu'il y a la vraie noix. Voilà. Moi, pour moi, c'est le pébé. Voilà, c'est, comment dire, une gousse.
Donc, qui se râpe, qui se frotte contre une petite lame pour.
Voilà, qui se râpe, qui s'écrase aussi, mais c'est assez dur. Hein.
C'est pour le poisson, non, ça?
Alors, le pebe, c'est pour le poisson. Moi, je l'utilise aussi pour des salades. Donc, je voulais répondre à la personne de RDC que le thème d'aujourd'hui, c'est comment intégrer
les épices
oubliées dans notre alimentation.
Donc, on y compris dans les salades.
On peut très bien faire des salades. Les salades, c'est pas seulement les feuilles. On peut faire des salades, comme on a dit tout à l'heure, de patates douces, de manioc. Ça, je le fais avec du pebe que je saupoudre.
Ça veut dire que quoi? Il faut avoir au moins 4-5 épices sur son étagère pour
au minimum, oui.
Au minimum.
Il ne faut pas plus. Il ne faut pas trop mélanger.
Oui, pas en même temps.
Oui, pas en même temps.
Bien sûr.
Oui, oui.
Après, il faut savoir, doser. Voilà. Moi, il y a une épice oubliée que j'aime beaucoup utiliser. Ça n'a pas de nom. Les Français appellent ça le fruit de l'arbre à ail. Mais chez moi, on appelle ça sinzakolo. Au Cameroun, c'est olum, on a les graines et on a l'écorce, ça sent l'ail. Quand vous sentez, vous avez l'impression que c'est de l'ail.
Mais, et puis ça se conserve beaucoup plus longtemps.
Et ça se conserve beaucoup plus longtemps. Quand vous allez, il y a un endroit à Libreville où il n'y a que des arbres comme ça, vous avez l'odeur de l'ail dans l'air. Et ça, par exemple, hier, j'avais un atelier à l'hôtel de Crillon où j'ai fait découvrir au chef des cuisines cet ingrédient. Il m'a dit, mais c'est génial, ça vient d'où? J'ai dit, ah, Ça, c'est secret. Mais ça fait partie justement de ces épices-là qui sont oubliées et qu'on n'utilise plus beaucoup dans nos cuisines.
Aïssata, oui, pour vous, au Mali.
Pour moi, au Mali,
Les épices incontournables à avoir sur son étagère pour remplacer les additifs
industriels. On en a deux, donc le soumbala. Et on en connaît, c'est très bon, tout le monde l'utilise au Mali. Et ça a aussi des vertus curatives, ainsi que les féfé. Je ne connais pas les noms en français, je ne sais même pas si ça existe.
Le soumbala, c'est la graine de néré.
Oui, la graine de néré, exactement, les tétous. Oui. Et on a aussi les féfé. C'est un autre épice de la même coupe qu'est du poivre, mais c'est très très bon et c'est épicé et on l'utilise partout au Mali. Et ça a aussi pas mal de vertus.
À quand un petit guide
fait.
Dictionnaire des épices et condiments made in Africa.
Et ce qui est intéressant avec le soumbala, c'est que ça a la couleur et l'odeur du chocolat. Mais quand vous le cuisinez, ça donne un petit odeur de parmesan.
Tout ça révolutionne la cuisine africaine. Quels sont donc les aliments oubliés que vous souhaitez réintroduire dans vos plats ou que vous réintroduisez au nom d'un patrimoine culinaire africain? 33 1 84 22 71 71, c'est notre numéro de téléphone. Il faut nous appeler, surtout n'attendez pas la fin de l'émission pour vous exprimer et pour partager vos meilleures recettes, vos coups de cœur. Chez 7 milliards de voisins, le groupe sud-africain Black Girl. Nous sommes en ligne avec Joël Tamo puisqu'on parle de cette redécouverte des épices, des aliments oubliés pour valoriser le patrimoine culinaire africain. Bonjour Joël Tamo.
Bonjour Emmanuel.
Joël, vous êtes Camerounais, vous êtes arrivé en Allemagne à 18 ans pour un master d'informatique. Et ça, vous n'êtes pas le premier à bifurquer vers l'agroalimentaire, vers la cuisine. Vous êtes installé à Heidelberg, une ville universitaire en Allemagne. Et vous avez créé tout récemment, il y a un an, la marque Zesok, qui veut dire épices en bamileke. Et ce sont, si j'ai bien compris, des mélanges d'épices, mais complètement naturels, sauf que vous proposez des sachets différents, avec différents mélanges d'épices en poudre qui sont tout prêts à l'emploi pour assaisonner ces plats, pour faire mariner, comme le disait Olivia de Souza il y a quelques minutes.
Tout à fait. Donc, c'est sûr que c'est ce que j'appelle la maison des épices. Et c'est une... J'y arrive pour déjà, avant de lancer cette heure, c'est déjà pour résoudre mes problèmes, si on peut dire comme ça, à la maison. Parce que je suis marié, j'ai deux enfants.
Oui.
Et mon épouse, elle est médecin. Donc, elle doit souvent faire les gardes et travailler les week-ends et il faut s'occuper de la maison. Elle fait la cuisine et tout ça.
Oui. Donc, c'est vous, au fourneau.
Oui, c'est moi qui dois passer au fourneau.
D'accord. Votre épouse, elle est d'origine camerounaise aussi. Hein.
Oui, elle est d'origine camerounaise aussi.
Et comment, alors, ne pas oublier son patrimoine culinaire quand on a beaucoup de travail d'où cette idée du mélange d'épices toutes prêtes.
Tout à fait.
Tout à fait. Donc, disons que mes enfants aussi, ça vient aussi un peu de mes enfants, parce que mes enfants ne mangent pas trop fast-food et préfèrent.
Oui.
Donc, il fallait vraiment passer au fourneau les trucs comme aux saucissons le soir. Là, c'est pas trop leur affaire. Donc, ils aiment la nourriture chaude. Et du coup, il fallait trouver une solution qui voulait faire plaisir.
Mais c'est vrai qu'en Afrique, ça se fait pas trop, les sachets tout prêts. Ça se fait beaucoup, par exemple, au Liban, où on a des sachets tout prêts avec des épices complètement naturelles, hein, mais qui sont déjà assemblées. Et donc, ça fait gagner quand même beaucoup de temps. Vous avez commencé cette aventure, Joël Tamo, il y a un an, après plus de 15 ans d'absence du Cameroun. Alors finalement, est-ce que vous étiez vous-même devenu un étranger par rapport à votre patrimoine camerounais?
Tout à fait. Lorsque j'ai commencé ça, lorsque j'ai commencé à avoir les recettes de ma grand-mère pour faire certains repas, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié le goût de la nourriture de chez nous.
Ah bon?
Donc mon goûter était avait été reprogrammé pendant un bout. Donc en réapprenant à utiliser ces épices, et je me suis dit, waouh, ça c'est la nourriture que j'ai mangée il y a 10 ans. Ça, c'est... Je me souvenais même parfois des instants pendant lesquels j'ai dégusté certains repas, et ça me reprojetait en arrière.
Ah oui. Ça, c'est incroyable. Le pouvoir évocateur de la cuisine et des goûts.
Oui.
Encore faut-il cultiver la faculté de ses papilles, hein, de ressentir aussi les émotions culinaires.
Oui, je me dis, puisque j'ai grandi dans cette cuisine, dans cette culture-là, c'est gardé quelque part dans mon cerveau, et je crois que c'est valable pour tout un chacun. Nous avons sauvegardé ça quelque part, un endroit, et il suffit d'un instant, d'une occasion pour que tout ça revienne.
Vous avez été surpris, quand vous avez redécouvert ce patrimoine des épices camerounaises, de la largesse de la gamme, du nombre d'épices?
Oui, bien sûr. Parce que nous avons tellement d'épices, des goûts différents, des textures différentes. Et avant même de mettre dans les repas, lorsqu'on ouvre, tu ouvres le sachet, tu ouvres le paquet, tu dis, waouh, c'est de ça à la maison. Tu commences à, avant même déjà que le repas soit prêt, tu as déjà bavé, quoi.
Ouais. Bon, c'est pas Nathalie Brigot qui va vous démentir, Nathalie Brigot Ngoum.
Je peux lui dire un mot, s'il
vous
plaît.
Bien sûr, les micros sont ouverts.
Donc, je voulais, je suis émue, le remercier d'avoir fait cette démarche-là, parce que contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, on fait déjà ce genre de choses, mais de façon un peu empirique, et puis chacun dans sa cuisine. Ma mère faisait déjà des épices.
Des mélanges.
C'est pour ça qu'il parlait de sa grand-mère.
Qui était prêt à l'avance.
Tout à fait. Donc moi, je le remercie parce que ma mère était excellente cuisinière réputée, mais comme vous dites, elle est morte, il n'y a plus rien. Et alors que lui, voilà, il...
Et alors, ces assemblages, vous avez été re-questionné des grands-mères pour retrouver les assemblages?
Oui, lorsque je rentre au Cameroun en 2016, je trouve ma grand-mère, lorsque j'arrive, là, je fais la cuisine, je vois, elle a son bocal là, elle fait la cuisine, je lui demande, c'est quoi ça? Elle me dit, qu'elle a déjà... préparé là, préfet là, donc du coup elle n'a plus besoin de reprendre les grains secs, les réécraser et tout. Elle a déjà écrasé la cuisine qu'elle aimerait faire. Alors, je lui demande les noms, elle me donne les noms en langue américaine. Alors, oui. J'essaie de les retenir pour aller en ville, demander au marchand en ville comment est-ce qu'on, quel est le nom de la traduction en français. Donc, c'est comme ça, donc, pour chaque mélange de ce qu'elle avait déjà fait, donc, je retrouve plus ou moins les noms en français ou bien en langue locale, pas forcément en français, parce que...
C'est ça, c'est-à-dire qu'avant de devenir entrepreneur en épices, en assemblage d'épices, vous vous êtes transformé en archéologue du patrimoine culinaire camerounais.
Oui. Exactement, j'ai fait dans cette démarche-là, donc c'est comme ça que je retrouve dans la liste des épices.
Joël, on a une question, mais pour tous les autres invités aussi. Emmanuel qui est à Goma, 26 ans. Emmanuel, avec un seul L, hein, c'est bien un garçon, j'insiste. Je suis le cuisinier. Ah ben non, mais on me le montre plus le message sur le tableau. Donc, je suis le cuisinier. Oui, c'est bon. Je l'ai sur l'écran. Je suis le cuisinier de la famille. Quel est le rôle du gingembre? Comment bien le préparer? Quand l'utiliser ou pas? Peut-on l'utiliser dans les salades?
Oui.
Qui veut répondre déjà en studio?
Alors, je voudrais répondre parce que tout à l'heure, Anto parlait des feuilles qu'on oublie. Mm-hmm. Donc, avant qu'on nous pose cette question, je voulais en parler. Alors, au Cameroun, on utilise les feuilles de gingembre, qu'on appelle aux hommes dans certaines parties, parce qu'on cultive le gingembre dans les maisons. On avait le gingembre chez nous. Moi, j'ai réussi à en faire en pot chez moi.
Ouais. Moi, je connaissais effectivement la tubercule.
Dans le Val d'Oise, parce que tout le monde parle de la racine, bien mais sûr, les feuilles de gingembre, on les fait en papillote, c'est un régal.
Ah bon?
Oui.
On enroule des aliments dans la feuille de gingembre.
Disons que la feuille de gingembre, on l'utilise comme un condiment qu'on met dans la feuille de bananier avec du poisson et d'autres épices.
C'est un peu comme la feuille de curry.
Mais ça sent vraiment très bon.
Et facile à trouver sur les marchés africains, la feuille de gingembre?
Chacun cultive son gingembre.
Chacun cultive son gingembre.
C'est un peu comme ces herbes aromatiques.
Si vous demandez à quelqu'un qui cultive,
c'est pratique à Dakar, si on n'a pas de courette.
Non, même dans un pot. J'en ai encore chez moi dans le Val d'Oise.
Ah oui,
d'accord. Bien sûr.
Bon, vous pouvez cultiver. Joël, à Heidelberg, en Allemagne.
Les feuilles de gingembre, par exemple, sont utilisées dans le mélange d'épices Blombongo Chobi. C'est ça qui donne ce goût piquant-là lorsqu'on pour la sauce bongo. Les Camerounais vont se retrouver là. C'est Blombongo Chobi qui sont utilisés là.
Mais nous, au Togo, on a aussi une sauce de gingembre. On a une sauce de gingembre Nord Togo où on fait à base de gingembre. Ça veut dire, mais elle n'est pas forte, hein, parce qu'après on mélange avec de l'ail, de l'oignon, du gingembre. La sauce est vraiment, on l'appelle sauce gingembre. Et on le mange avec de la pâte, de maïs. Et donc c'est une idée d'utiliser le gingembre pour en faire aussi cette sauce-là avec du poisson.
C'est terrible ce que vous nous donnez faim. 11h42 sur le continent africain ou 10h42, mais déjà l'heure du repas se profile. Merci beaucoup à vous, Joël Tamot, d'avoir été en ligne avec nous. Donc vous êtes fondateur de la marque Zesok, épices en bamileke, mélange d'épices en poudre prête à l'emploi, commercialisée en Allemagne, mais entièrement fabriquée au Cameroun, assemblée, présentée dans des sachets et ensuite commercialisée en Allemagne et à terme dans le reste de l'Europe. Merci beaucoup Joël Tamot, très bonne journée à Heidelberg.
Merci.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille une voisine qui nous appelle de N'Djamena au Tchad, Swad.
Allô, oui, bonjour.
Soyez la bienvenue, Swad. On vous écoute sur les épices, sur les aliments oubliés pour le patrimoine africain.
Effectivement, j'ai écouté toutes les intervenantes. D'abord, je suis émerveillée par l'initiative qu'ils ont prise pour organiser ce festival en France. Dommage qu'on ne pourrait pas y être.
Oui, mais vous inquiétez pas, ils vont partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez leur faire confiance, hein. N'est-ce pas
Oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème.
En fait, j'ai voulu partager également mon intervention avec eux sur le fait qu'aujourd'hui, les épices qui sont pour la plupart utilisés dans nos cuisines, ont des noms différents. Et par exemple, si tu vas au Cameroun, pour les grains de niébé, tu vas trouver un autre nom. Chez nous, ici, on appelle avec un autre nom.
Oui, oui.
À Dakar, au Sénégal, c'est un autre nom. Alors, ça fait que, du coup, tu ne peux pas savoir exactement qu'est-ce qui est mis, par exemple, dans une sauce camerounaise, alors que c'est presque les mêmes ingrédients qu'on utilise dans tous les pays africains.
Eh oui, bien sûr. Oui. Vous allez dans un maquis, vous demandez la recette, on vous donne des noms, vous voilà. N'êtes pas dans votre pays et donc vous ne savez pas comment reproduire.
Voilà, tout à fait. Donc il faudrait vraiment, je vous ai apporté une contribution là, dans ce festival, si...
Le dictionnaire.
Le dictionnaire. Mais on est justement avec Afro Cooking, on est en train de
parler. Le dictionnaire, parce
que. Un lexique
cuisinier. Oui, un lexique.
Mais oui, exactement, tous ces termes-là.
Oui, oui. Tout à fait. Vous avez raison. Et ça n'existe pas, à ma connaissance. Oui.
Voilà, tout à fait. Parce que moi, les graines de niébé, chez nous, on appelle Daudoua. Alors, tout à l'heure, j'avais appris.
Olivia de Souza, vous aviez un exemple comme ça tout à l'heure pendant la chanson. Vous pouvez redire
en
le
fait,
nom
Emmanuel,
de ce que
vous n'êtes pas gentil. Bon, j'ai pas l'accent, hein, mais ça s'appelle nouhouin-houin. Donc les Togolais, vous savez de quoi je parle, non? Nouhouin-houin. Donc c'est un mélange d'épices. Donc c'est un mélange d'ail, de gingembre, d'oignon et de poivre. Et comme je disais, et d'anis. Donc ça, c'est la base de la cuisine togolaise. Voilà, nouhouin-houin. Et maintenant, on le fait sec. On le fait sec, justement, c'est un mélange qu'on peut acheter sec. Donc, dans les supermarchés.
Le lexique, il le faut à l'écrit et en audio aussi. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution, Swad. Un message de Mustapha Ambour au Sénégal.
Dans mon village où je suis, on utilise souvent les feuilles de nebedaï, les feuilles de morenja, d'autres feuilles comme les feuilles de patate, les feuilles de manioc, les feuilles de... et d'autres herbes que nous consommons beaucoup, ce qui fait que des gens, au lieu d'investir des milliards pour autre chose, nous pouvons l'investir dans l'agriculture de nos produits locaux et que nous encourageons nos populations à consommer local et à cultiver local. Merci.
Réaction. Alors effectivement, l'agriculture, c'est primordial pour vous toutes entrepreneuses, pour vous fournir les coopératives agricoles, pour trouver ces produits aussi.
Tout à fait.
Exactement.
Aïssa Tadia Kité.
Oui.
Pour vos jus.
C'est indispensable. Moi, ça m'a pris quasiment 3 années de constituer tout un réseau pour l'approvisionnement de notre unité à Bamako. Et à travers le Mali, on travaille avec plusieurs agriculteurs selon les matières premières. Par exemple, la fleur d'hibiscus va pousser dans la région des Mopti, les baobabs dans la région des Kayes, et les abans qui mettent même le nom de la marque, les abans. Oui. Zaban.
Ah oui.
On va les trouver.
Les fameuses lianes. Hein.
Exactement. Dans les régions comme Sikasso, etc. Donc, vraiment, ces agriculteurs-là sont notre force. Ils connaissent bien les produits. Et aujourd'hui, moi, j'ai plusieurs recettes en plus de la gamme Zaban dans laquelle on a 10 produits. Je ne fais que découvrir, en fait. Il y en a beaucoup. Et pour revenir.
Attendez, vous découvrez encore des produits, des
encore.
Plantes que vous ne connaissiez pas au Mali?
Oui, que je ne connais pas, que je découvre, ainsi que des super fruits. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup de vertus. Souvent, même qui sont utilisés pour soigner, mais quand on les goûte, c'est très bon dans la bouche. C'est ça qui est surprenant.
Et par exemple, des fruits que vous avez découverts il n'y a pas longtemps, vous qui avez grandi au Mali?
Oui. Il y en a beaucoup et on m'amène tout le temps et je suis très proche des seniors et c'est pourquoi les villages, le lieu d'approvisionnement est très important parce qu'on découvre à chaque fois, comme ils ont compris les concepts de l'entreprise, ils m'apportent « Ah, Aïssata, il faut essayer celui-là ». C'est comme les raisins sauvages qui poussent dans le pays d'Ogan. On appelle ça au Mali les pégons. Et on peut en faire du boisson, les jujubes comme tamono. Oui, il y a une panoplie. Exactement.
Le raisin sauvage, à quoi ça ressemble?
Et
ça ressemble
c'est des raisins tout
petits. Un raisin
Exactement. Tout petit, noir. Ils vont pousser les uns sur les autres. Faire et c'est très bon en bouche. Et tout est utilisable, en fait. Que ce soit le fruit, et, les graines.
Et comment vous l'appelez, ce raisin sauvage?
Au Mali, on appelle pégou.
Pégou.
Pégou, oui.
Ça ressemble plutôt à du cassis, non?
Oui,
des graines de cassis.
Exactement.
C'est
et c'est très petit, ils sont très très rouges.
Aujourd'hui, toutes et tous, vous secouez le cocotier, vous dites qu'il faut sortir des routines culinaires, c'est ça, globalement?
Oui, je pense qu'il faut sortir des routines culinaires. Par exemple, ici, ne fût-ce qu'en région parisienne, on a une pléthore de marques qui font du jus de bissap. Mais on ne boit pas que du bissap en Afrique. Oui. On a tellement de jus. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai rencontré Aïssata et qu'elle m'a montré en fait, la gamme de produits, j'ai dit, c'est génial, il faut que tu viennes à notre festival. Parce qu'il y a tellement de recettes de produits. Et on a tellement de boissons entre le quinqueliba, moringa.
Alors le quinqueliba, moi, dans mon esprit, c'était quand même une boisson, une tisane assez amère. Hein, qui d'ailleurs
après,
a été utilisée plutôt pour des vertus thérapeutiques.
En fait, le souci, c'est qu'il faut savoir les utiliser. Il faut savoir les doser. Il y a toute une technique, en fait. Moi, j'utilise par exemple le moringa. Ça peut être très amer, mais ma boisson qui s'appelle les guerriers ou la guerrière avec le moringa, c'est très bon en bouche. Et il faut juste savoir les doser, en fait. C'est là où il y a une différence, ainsi que le gingembre. On l'utilise aussi souvent pour parfumer ou souvent pour épicer. Tout dépend de l'utilisation.
Dans vos jus, en moyenne, il y a combien d'ingrédients différents, Aïssata Diakité?
Et en moyenne, on va trouver au minimum 2 ingrédients dans un jus. Souvent, on peut aller jusqu'à 4, selon le rôle qui va jouer, en fait. C'est une découverte, la gamme Zaban.
Et toujours, bien sûr, des fruits pour apporter la douceur, le
exactement,
sucre.
Exactement, oui.
Alors, Nathalie Brigongou, pour compléter ce que Chef Anto et Aïssata ont dit, on ne peut pas tout faire. Moi, je suis plutôt dans la création culinaire, dans la photo. Donc, moi, je travaille beaucoup, de plus en plus, avec des gens qui sont à la fois au Sénégal et au Cameroun, dont je tiens à les remercier ici. Au Sénégal, il y a Madame Anne-Catherine Senghor-Dior, qui, avec l'assaut Solamantin, travaille avec des coopératives. Et je vais voir, on va voir ce qu'on va faire ensemble. Au Cameroun, il y a 2 personnes que je tiens à nommer ici-là. Il y a Eric Mintamak, qui est plutôt dans la globalité, dans l'éducation, avec des concours culinaires, avec des jeunes, aller faire le travail, ce que vous avez dit, d'archéologie dans les villages. Et puis Laura Sen, qui fait un travail extraordinaire de mise en avant, je ne vais pas appeler ça découverte parce que ces personnes existent, mais de mise en avant de talents d'agriculteurs, de produits, de fruits, comme Aïssata disait.
Parce qu'on a des fraises.
Donc, j'ai découvert qu'il y avait des fraises au Cameroun via Laura Sen.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et aussi toute une série de farines qui sont en train d'être mises sur pied, qui n'existent même pas en France. Des farines de melon, des farines de banane plantain.
Des farines de melon.
Exactement. Oui. Des farines de melon.
On peut faire une farine à base de melon alors qu'il y a 80% d'eau dans le melon, non?
Ben, c'est une histoire de séchage, une histoire de dosage. Et oui,
ben oui, parce
il y
que
a
nous
beaucoup
aussi,
de choses.
Au Togo, et là, je profite de l'occasion pour les mettre en avant. On a un groupement de femmes qu'on appelle les femmes AWEP. Et donc, c'est elles aujourd'hui qui, au Togo, dans tous les domaines possibles de l'agriculture, font des farines. Donc, moi, aujourd'hui, je suis venue pour Weed Africa avec une farine de haricots. Donc, on fait des farines de haricots, on fait des farines de plantain.
Mais ces farines-là, elles ont été inventées tout récemment par des hurluberlus ou en fait, ce sont vraiment des recettes extirpées des grands-mères qui pratiquaient ça parce que le patrimoine culinaire africain, c'est aussi un patrimoine de la pénurie
tout
aussi.
Tout à fait.
Hein.
Mais par rapport aux farines, je vais vous dire. Par exemple, on a un beignet au Mali qu'on retrouve partout en Afrique, le gnomi. Le womi, moi et mes accents et mes trucs là-bas. Eh ben, la farine de mil, c'est ça, hein? La farine de mil, on la retrouve au Nord Togo, on la retrouve aussi au Cameroun, je sais pas si au Gabon vous en avez, mais donc, elle a bien été faite pour en faire ses beignets.
Elle a été faite parce qu'on n'avait pas d'autres farines disponibles.
Voilà, on n'avait pas d'autres farines disponibles à
l'imagination
l'époque. Donc l'imagination, elle date.
À combler les pénuries.
Voilà.
Elle date. Vous avez aussi raison, Emmanuel. Il y a aussi des choses plus récentes.
Oui, bien sûr.
Parce qu'on exportait des produits bruts. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas le faire nous-mêmes, puisque tous ces aliments-là ont de l'amidon.
On accueille les voisins et les voisines qui veulent partager des points de vue sur le patrimoine culinaire africain. Aujourd'hui, on parle essentiellement de ces aliments oubliés, des épices, comment les réintroduire dans notre alimentation sur le continent africain et à l'extérieur. Je vous redonne notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Zaya Sunkurumba et on s'échange des recettes. Ça va, bon train dans le studio de 7 milliards de voisins aujourd'hui consacré aux cuisines africaines et tout particulièrement à la réintroduction des épices, des aliments oubliés. C'est incroyable la variété des produits que vous êtes tous et toutes en train de retrouver. Les participants au festival We Eat Africa qui se déroulera samedi prochain à Paris, à la gloire des patrimoines culinaires africains. Une voisine nous appelle Agnès en région parisienne. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Agnès, vous êtes...
Bonjour à tout le monde.
Vous êtes gabonaise d'origine, je crois?
Oui, je suis gabonaise, oui.
Oui, on vous écoute.
Voilà, tout à l'heure, il y a une jeune dame qui a parlé de taro,
oui,
ou makabo. Bon, comme on appelle chez nous, il y en a à Mienne, on appelle... Je suis de la tribu Mienne. Hein.
Oui.
On appelle Itabo.
Itabo.
Alors, le taro, on l'épluche sans gants, il n'y a pas de problème. Mais celui qui est gluant, on l'appelle Ikabonyo Antoseri.
Okay. Bon.
Et celui-là, il est un peu plus gros que le taro. Le taro est un peu plus petit, ce sont des légumes.
Oui, on a une experte du taro, hein, là, les filles.
Oui,
hein,
voilà. C'est une maman qui parle.
C'est exactement. Soyez la bienvenue, Tanti.
Merci. Donc, Ikabonyo Antoseri, obligatoirement, il faut mettre des dents pour l'éplucher parce que il est...
Et pourquoi des dents?
Des gants, pardon.
Ça fait du mal, ça.
Mais bien sûr, ça déclenche des allergies pour certains. Hein,
voilà,
pour
tous,
pas pour voilà. C'est pour ça que moi je disais que le tarot, c'est un peu galère quand même.
Comme vous voulez, il n'y a pas de problème.
Non, c'est le plus gros.
Et même les cœurs de tarot, on le mange comme légumes.
Pour ceux qui n'ont jamais goûté de tarot, ça ressemble à quoi le voyage de la découverte du tarot?
Le taro est un légume, il est comme la tubercule de manioc.
Hein?
Vous pouvez manger avec tout, le poisson, la viande, tout ce qui est cher. Les sauces, il accompagne toutes les sauces.
Merci à vous Agnès de nous avoir appelé en direct chez 7 milliards de voisins. Avant de se quitter, qui lâche une dernière petite recette? On a eu une recette de marinade au début de l'émission.
Une petite recette, Nathalie, de Brigo. Salade très rapide que vous allez retrouver sur votre site parce que je l'ai envoyé, voilà. Donc je réponds un peu à la RDC parce que c'est de la salade. C'est de la salade d'ananas. C'est aussi pour montrer que pour garder les filières, parce qu'il y a ça aussi, il y a des choses qu'on oublie, mais aussi des choses qu'on laisse de côté parce qu'on les utilise toujours de la même façon. Donc pour garder la filière ananas, on peut l'utiliser en entrée, comme ce que j'ai fait, avec du poivre de penja, avec du concombre, avec de l'avocat. Voilà. Ou bien avec de la viande et en dessert aussi.
Anto?
Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce que j'expliquais, c'est que nous, on nous a habitués, en tout cas, on m'a habitué, quand on mangeait les racines, on mangeait aussi les feuilles, ce qui fait que aussi bien qu'on mange les feuilles de manioc, on mange aussi des feuilles de taro, d'igname. Et ce que j'aime bien faire, en tout cas en ce moment, c'est les feuilles de taro. Qui sont comme une tombée d'épinards avec de l'ail, des échalotes.
À la vapeur ou dans l'eau bouillante?
Dans l'eau bouillante, mais juste quelques minutes, 3 minutes dans l'eau bouillante. Ensuite, on retire.
Ça garde
un petit
peu de croquant, c'est ça?
Non, en fait, ça garde vraiment le goût, ça garde les vitamines et ça a aussi la couleur verte. Et les faire revenir avec de l'ail, du poisson fumé et un peu d'échalotes.
Eh bien, merci à vous toutes pour ce partage du cœur sur... les cuisines africaines. Merci à vous, chef Anto, Olivia de Souza, Issata Diakité, Nathalie Brigaud. Samedi prochain à Paris, le festival We Eat Africa. Et bien sûr, il faudra venir nous raconter toutes les découvertes, oui, tous les partages. Merci à toute l'équipe, Baptiste Madinier, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio et les conseils sur les cuisines africaines aujourd'hui. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera du surpoids, rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, des discriminations vécues par les personnes en surpoids, au travail, en société, dans les transports. On attend vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. À demain les voisins et les voisines.